Alors, bonjour à tous et à toutes. Nous poursuivons notre réflexion pratique sur le Deutéronome, nos réflexions pratiques sur le Deutéronome, et nous allons aborder maintenant le chapitre 6 que j'ai intitulé, parce qu'on peut donner toutes sortes de titres aussi, mais je l'ai intitulé « Écouter, pratiquer, prospérer ». Vraiment, c'est les mots-clés qui m'ont frappé dans cette lecture du chapitre 6, et nous allons regarder à cette portion ensemble. Alors que nous commençons aussi cette portion qui est vraiment l'exposé de la loi, comme on l'a vu là, dans notre dernière étude à la fin du chapitre 5, eh bien, les chapitres 6 à 26, justement, exposent toute la loi que Moïse présente au peuple qui s'apprête à entrer dans la terre promise. Et il y a quelque chose d'intéressant que je voulais partager rapidement, c'est que c'est fort intéressant de voir que cet exposé de la loi du chapitre 6 au chapitre 26 suit un ordre dont les thématiques qui sont présentées sont de façon générale dans le même ordre que les 10 commandements de la loi qui ont été présentés dans le chapitre 5. C'est pas exactement pareil, mais c'est fort intéressant. Je vais juste vous faire une petite démonstration de cela, un petit survol. Je ne dis pas qu'il faut découper le livre du Deutéronome de cette façon, mais les thèmes sont dans le même ordre. Et ça, c'est simplement intéressant. Bien sûr, il y a certains chapitres où il y a tellement de choses qui nous sont mentionnées, on ne sait plus comment les classer, ça nous semble un petit peu disparate. Mais dans tout cela, il y a une logique, on dirait, en arrière. Comme par exemple, le premier commandement qu'on a vu dans Deutéronome 5, versets 6 et 7, c'est qu'il y a un seul Dieu. Dans les chapitres 6 à 11 que nous allons commencer à regarder maintenant, c'est fort intéressant de remarquer que l'Éternel, comme étant seul Dieu, dans chapitre 6, c'est ce qu'on va voir, revient souvent, entre autres dans le chapitre 7, on voit que le pays, c'est le pays qui appartient à l'Éternel, et puis que l'Éternel est Dieu et qu'il fallait détruire les autels des idolâtres qui étaient là. Dans le chapitre 8, que c'est l'Éternel qui fait entrer le peuple dans le pays. Dans le chapitre 9, que c'est l'Éternel qui est saint et qui juge les méchants. Au chapitre 10, il faut craindre l'Éternel. Au chapitre 11, il faut aimer l'Éternel et garder ses commandements. Donc vraiment, le premier bloc de chapitre, c'est vraiment, on pourrait, si on veut, mettre une thématique qui est autour de la personne de Dieu, justement. Ensuite, le deuxième commandement, c'est justement contre l'idolâtrie. Puis au chapitre 12, on trouve que lorsque le peuple doit entrer dans la terre promise, eh bien, il doit détruire toutes les idoles et ensuite rechercher le lieu où l'Éternel a mis son nom. Ouais, il y aurait beaucoup de choses à se dire sur le chapitre 12. Je ne sais pas si on fera une seule présentation ou deux sur ce chapitre, mais bon, bref. Rendu là, peut-être qu'on sera aussi à l'avant. Amen. Eh bien, rendu là, on regardera qu'est-ce qu'on fait si on fait... On découpe à plusieurs sous-parties où on fera une simple présentation d'un survol rapide. Troisième commandement, le nom de Dieu. Hein, il fallait pas blasphémer le nom de Dieu. Eh bien, au chapitre 13 et 14 du Deutéronome, on trouve justement des faux prophètes, des gens qui disent des choses au nom de Dieu qui sont fausses, ou les pratiques que le peuple devait avoir lorsqu'il est dans le deuil, hein, de pas faire comme les peuples idolâtres à cause du nom de Dieu, justement. L'alimentation qu'il devait avoir. Vous pouvez lier ça dans le thème du nom de Dieu comme peuple de Dieu. Chapitre 13 et 14, on a la dîme, on a... C'est intéressant, le nom de Dieu. Quatrième commandement, le sabbat. Les chapitres 15 et 16 du Deutéronome nous parlent de l'année de relâche après 7 ans. Nous parlent aussi des fêtes de l'Éternel. Tu sais, sabbat, fête, relâche. C'est intéressant. Cinquième commandement, honorer ses parents. Donc, autrement dit, on pourrait prendre le thème général de la structure de la société, l'ordre de la société. Eh bien, on trouve un peu la même chose dans les chapitres 16 à 18 du Deutéronome. On a les juges et magistrats, le système de justice, la royauté, le service des lévites. Ça fait partie de l'ordre de la société. Et puis que le peuple, il devait être parfait, comme l'Éternel était parfait aussi. C'est le verset 13 du chapitre 18. Sixième commandement, tuer, hein, tu ne tueras pas. Eh bien, on trouve dans les chapitres 19, les villes de refuge à cause de l'homicide. Au chapitre 20, faire la guerre, hein, les guerres, c'est la mort aussi. Chapitre 21, trouver un homme tué par hasard dans le pays, qu'est-ce qu'on fait? La femme haït. Le Seigneur Jésus a dit que, on l'a vu aussi, hein, celui qui est son prochain, c'est la haine, c'est meurtrier aussi, dire raca à son frère, etc. C'est digne du même jugement. Un fils indocile, un péché indigne de mort. On trouve tout cela. Et ensuite, dans les commandements 7, 8, 9, 10, on a l'adultère, voler, les faux témoignages, la convoitise. Eh bien, on trouve ces mêmes thèmes-là un peu plus intermélangé à partir du chapitre 22 environ jusqu'au chapitre 26. Donc, on a la confusion des choses, l'infidélité maritale, la fornication, les eunuques, l'impureté, la prostitution, les intérêts, les vœux, la vigne de son prochain, le divorce, les gages, le vol, la lèpre, faire des prêts, l'oppression... etc. Je vais m'arrêter ici, mais jusqu'au chapitre 26, on trouve vraiment beaucoup de ces thèmes qui touchent ces mêmes idées des derniers commandements, l'adultère, voler, les faux témoignages, la convoitise. Donc, je vais simplement mentionner ceci. On va passer à travers ces chapitres. Certains semblent bien structurés, d'autres ont l'impression des fois que ça a l'air disparate de la façon que les choses sont mentionnées. L'Esprit de Dieu avait tout le temps des raisons. Souvent, c'est nous qui n'avons pas la finesse suffisante, si je peux dire ça comme ça, pour saisir qu'est-ce que l'Esprit, justement, communiquait et voulait dire. Donc, c'est intéressant. Mais arrêtons cette introduction. Allons maintenant dans notre chapitre 6. Écoutez, pratiquez, prospérez. Et dès le départ, on a un appel solennel à écouter et pratiquer les statuts et les commandements de l'Éternel. Et nous allons lire ensemble les versets 1 à 3.
Et ce sont ici les commandements, les statuts et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner afin que vous les pratiquiez dans le pays dans lequel vous passez pour le posséder, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, pour garder tous les jours de ta vie, toi et ton fils et le fils de ton fils, tous ces statuts et ces commandements que je te commande, et afin que tes jours soient prolongés. Et tu écouteras, Israël, et tu prendras garde à les pratiquer, afin que tu prospères, et que vous multipliez beaucoup dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit.
Voilà, on a dès le départ ces encouragements solennels à garder les commandements. Moïse les a reçus de la part de Dieu pour les enseigner au peuple. Et ça nous fait penser un peu, pour l'appliquer déjà immédiatement à nous dans ces réflexions pratiques, à ce que les apôtres ont enseigné dès le commencement, on lit dans la parole, à deux reprises, entre autres dans Jude, au verset 17, c'est écrit « Souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et aussi dans 2 Pierre, au chapitre 3, au verset 2, on lit « De se souvenir des paroles qui ont été dites à l'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur par vos apôtres. » Donc, on a ces enseignements qui nous ont été donnés par les apôtres, pour nous aussi dans le Nouveau Testament, et c'est ce qui est adéquat pour nous, que nous recevions ces paroles et que nous les mettions aussi en pratique, mais non pas sous le thème d'une loi. Plusieurs, malheureusement, peut-être à cause d'une fibre religieuse en eux ou de crainte, peut-être une crainte servile de Dieu au lieu d'avoir une crainte respectueuse de Dieu, ont l'impression qu'ils doivent se remettre sous une forme de loi et de faire les choses que Dieu nous a laissées comme si c'était des commandements de loi. On ne sera jamais justifié par ce genre de choses-là. Et bien sûr, Dieu désire que nous marchions dans ces choses qu'il nous a laissées, mais c'est dans la liberté en Christ, c'est-à-dire c'est l'Esprit qui produit cela naturellement en nous. Si on laisse l'Esprit de Dieu agir en nous, nous transformer, et nous, en étudiant la parole, en la connaissant, nous sommes transformés par celle-ci aussi, par la contemplation du Seigneur Jésus aussi, dans la gloire, étant occupé de sa personne, on est transformé et on met en pratique cette parole. Il y a des choses que, naturellement, évidemment, la chair ne voudra pas mettre en pratique. On doit faire un effort, parce que c'est ce qu'aussi la parole nous demande. On doit marcher d'une manière digne du Seigneur, en nouveauté de vie, ayant notre intelligence et notre entendement renouvelés par la parole de Dieu. Laissez les voies anciennes, d'avant que nous étions sauvés, et maintenant marcher parce que le Seigneur nous a laissés. Alors voilà pour nous ce qui nous a été laissé dans les faits de garder, c'est ces enseignements que le Seigneur Jésus nous a donnés, l'enseignement des apôtres aussi, par les apôtres. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça ne va pas très bien dans le christianisme? Puis à vrai dire, on est en 2024 présentement, et puis non seulement ça ne va pas très bien dans le christianisme, mais c'est un euphémisme de dire cela, c'est terrible ce qui se passe à bien des endroits. Eh bien, une des raisons, entre autres, pour cela, c'est que l'enseignement des apôtres, justement, a été délaissé. Spécialement les enseignements de Paul. En Paul, on est très content de recevoir l'Épître aux Romains, mais quand il commence à parler des choses qui concernent comment l'Église devrait fonctionner et l'attente de l'Église et toutes ces choses excellentes, ah, soudainement, non. Ah, ben là, Paul, non. Puis là, on a toutes sortes de raisons. Puis ça, si c'est pas inspiré, machin, peu importe. C'était... On a toutes sortes de choses pour, justement, abandonner les enseignements de Paul. C'est exactement ce que Paul avait dit, pourtant. Il dit, dans les derniers temps, les gens vont s'amasser des docteurs enseignant des choses qui plaisent à leurs oreilles. Ils vont vouloir juste suivre ces personnes-là. Eh bien, regardez, frères et sœurs, si on veut que les choses fonctionnent bien, puis qu'il y ait de la bénédiction, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. La façon dont nous nous réunissons, la façon dont nous marchons, la façon dont nous vivons notre marche comme enfants de Dieu, notre attente d'espérance, toutes ces choses, c'est les enseignements de Paul. Et puis, c'est les premiers enseignements généraux qui sont rejetés par les croyants. Parce que, je sais pas, ça fait pas leur affaire, on dirait. Et pourtant, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement de la parole de Dieu pour nous que nous devons garder. Alors voilà, Israël ici était encouragé, était rappelé même d'une façon très ferme à garder les commandements de l'Éternel, qu'il les pratique dans le pays dans lequel il allait passer pour le posséder maintenant, afin que, quoi, ils craignent l'Éternel, leur Dieu. Alors, si nous aussi, on fait ces choses qui nous ont été laissées, pour reprendre peut-être l'expression de Philippiens 4:9, hein, faites ces choses et le Dieu de paix sera avec vous. Eh bien, si on fait ces choses, il y aura la bénédiction spirituelle pour nous. Et Israël, eux, s'ils faisaient ces choses, ça allait être pour prospérer dans le pays et justement pour apprendre à craindre l'Éternel, leur Dieu. Et ça, c'était le but pour lequel ils devaient apprendre et pratiquer les choses qu'ils avaient reçues par Moïse, de la part de l'Éternel. Craindre l'Éternel. On a déjà parlé de craindre l'Éternel dans, je crois que c'est dans notre chapitre 4. Et je nous vous réfère à ce chapitre 4 qu'on a déjà vu pour aller un peu plus profondément sur cette question. Mais voilà, c'était la crainte de Dieu qui allait être pour leur bénédiction. Parce qu'ils allaient garder justement les statuts et les commandements que Dieu leur avait commandés. Si on craint Dieu, c'est-à-dire que si on a ce désir de faire ce qui lui plaît, non seulement cette peur de lui déplaire, mais positivement ce désir de faire ce qui lui plaît, eh bien on va garder naturellement sa parole. Ainsi, Israël, c'était par l'obéissance qu'il devait apprendre à craindre justement l'Éternel. C'est ainsi aussi qu'ils allaient prospérer. Maintenant, si on prend un petit recul puis on regarde à l'histoire d'Israël, bien, c'est triste. Hein? Est-ce qu'ils ont craint l'Éternel? Ça a marché un bout de temps, mais rapidement, regarde Josué, puis toute sa génération ont passé, puis chacun faisait ce qui était agréable à ses yeux. On a le livre des juges, c'était terrible. Ensuite, on a le livre de Samuel, des rois, les chroniques, hein? Et puis on voit quoi? Des rois fidèles, il y a la bénédiction de Dieu, puis des rois infidèles qui ont introduit l'idolâtrie parmi le peuple, ils n'ont pas craint l'Éternel. On sait comment ça s'est terminé, l'exil à Babylone. Ils ont été ramenés, on connaît tout le reste de l'histoire. Maintenant, si on regarde à l'histoire de l'Église, est-ce que c'est plus rose, est-ce que c'est mieux? Il y a une différence. On a le même échec du côté de l'homme avec l'histoire de l'Église. Ce qui a été remis à la responsabilité de l'homme, eh bien, c'est un échec. Mais c'est Christ qui bâtit son assemblée, et c'est ça la grande différence. C'est qu'il n'y a rien qui va prévaloir contre cette assemblée que Jésus, lui, bâtit. Les véritables croyants, lui, s'occupe des siens. Malheureusement, nous, en tant qu'êtres humains, je ne veux pas aborder tout ce sujet, c'est tout un sujet qu'on pourrait développer qui est fort intéressant. Notre façon de bâtir sur ce seul fondement, comme Paul en parle dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 3, eh bien, elle est parfois, elle a été souvent, tout à fait contraire à la pensée du Seigneur. On a amené des mauvais matériaux, et puis on a mal bâti, et puis ça a donné l'état de choses que nous voyons aujourd'hui. Plein de choses ont été faites au nom de l'Église, du christianisme qu'on dit, au nom de Jésus, et ça, ça l'a sali, le nom du Seigneur Jésus. Des choses horribles qui ont été faites dans l'histoire. On trouve aucune parole dans le Nouveau Testament qui nous disait de faire ces choses-là, mais malheureusement, l'homme a fait cela. Et encore aujourd'hui, parfois, de la façon dont on fait les choses, au lieu de s'en tenir à la parole en toute simplicité, eh bien, on s'en écarte, puis on bâtit selon notre propre entendement. Et c'est pas à la gloire du Seigneur, c'est pas selon sa pensée, c'est pas comme ça qu'on va continuer à prospérer. Bref, je vais pas aller trop là-dessus, on sait que ça va se terminer assez mal. Paul, qui était en bateau pour aller à Rome, alors qu'il était prisonnier. C'est fort intéressant. Paul était prisonnier. Hein? On n'écoute plus les enseignements de Paul sur le bateau. Puis même quand Paul a dit « Ah, oh, il va avoir de l'avarice, on s'en va en bateau pour continuer comme ça », c'est écrit qu'ils n'ont pas écouté Paul. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben le bateau, il a échoué, puis ça a été une ruine totale. Il n'y a personne qui est mort, mais le bateau, c'était une ruine totale. Puis si on prend un exemple du bateau, du voyage, de tout le truc, avec l'histoire de l'Église chrétienne, c'est exactement ça qui est arrivé. L'Église, c'est le bateau. Les âmes qui sont dedans, c'est ceux qui sont sauvés. C'est une image, hein? On sait que c'est pas tous ceux qui étaient dans le bateau qui étaient sauvés, mais c'est juste une image. Eh bien, on n'a pas écouté ce que Paul disait, puis ça a fait un épave épouvantable au bout du compte. Il n'y a personne qui allait mourir. Tout le monde a été sauvé, mais le témoignage, lui, le bateau, c'était une catastrophe. Quand on lit dans le livre de l'Apocalypse, hein, Laodicée, oh, Laodicée, elle est riche, elle est bien confortable, tout le machin, et ça représente l'état du christianisme dans les pays occidentaux. Hein. Il y a des chrétiens qui sont persécutés dans d'autres pays, mais on est confortable, tout le machin. Oui, mais le Seigneur était à la porte, puis il frappait, puis il était dehors, comme on dit. Je ne veux pas aller trop sur ces sujets-là, mais ces images nous parlent. Si on regarde à l'histoire de l'Église, c'est pas beaucoup mieux. Nous aussi, on doit garder que le Seigneur nous a donné, sa parole précieuse, telle que nous l'avons reçue. Ce n'est pas nous d'interpréter. Bien sûr, on doit la comprendre, on doit l'étudier, on doit la mettre en pratique. C'est ce qui nous est demandé. Donc voilà, écouter, pratiquer, prospérer, c'est un peu l'idée qu'on retrouve dans le verset 3. Tu écouteras Israël et tu prendras garde à les pratiquer afin que tu prospères et que vous multipliez beaucoup dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme l'Éternel, le Dieu de tes pères, te l'a dit. Voilà, notre prospérité spirituelle à nous aussi, non pas matérielle, notre prospérité spirituelle, elle est aussi liée au fait que nous gardions ou non les enseignements de la parole de Dieu. C'est pas une question de salut ici, mais de prospérité. Je donne un exemple. Quelqu'un est sauvé, plusieurs personnes sont sauvées, ils se réunissent ensemble, mais ils partagent le salut qu'ils connaissent à personne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont être sauvées si le salut est partagé à personne? Non! Il n'y aura pas de prospérité à ce niveau-là, dans l'œuvre de Dieu, par ces croyants-là, parce qu'ils ne prêchent pas l'Évangile pour que d'autres personnes soient sauvées. Si un groupe de croyants est sauvé, ils ont les richesses de la parole de Dieu, mais ne les étudient jamais pour les connaître. Et puis, ils ne s'édifient jamais mutuellement les uns les autres. Ou ils ne marchent pas d'une façon pratique dans ces choses que le Seigneur leur a données. L'amour fraternel, l'hospitalité, faire du bien à tous les hommes, mais spécialement à ceux de la maison de Dieu. Si ces choses ne sont pas faites, est-ce qu'il y aura de la prospérité spirituelle au milieu de ces croyants-là? Ah, rien du tout. Que dalle. Il va rien se passer. Ça peut arriver par miracle un matin, puis bam. Non. On a notre part de responsabilité. Donc, oui, on est sauvé. Oui, on est béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais si on les connaît pas, ou si on met pas en pratique ces choses-là, mais qu'est-ce que ça nous donne de les avoir? Ça donne à rien. Il y aura pas de profit spirituel pour nos âmes. Donc, voilà. Une des conditions, entre autres, une condition, j'aime pas dire ce mot-là, mais si on veut être béni, il faut marcher dans les choses qui nous ont été données, en toute simplicité. Puis le Seigneur donne les forces, son esprit qui est en nous veut faire ces choses-là, veut nous amener à faire ces choses-là, à les réaliser dans nos vies. C'est l'état normal chrétien, cela. La chose qui s'oppose à ça, c'est le monde, Satan, puis la chair qui est en nous. Eux, ils n'ont rien à voir de ça. Ils ont plein d'autres intérêts, eux autres. Et ce sont nos ennemis, ça. Mais l'esprit qui est en nous, lui, désire des choses de Christ. Ainsi, par exemple, on n'éprouvera jamais de la joie dans les choses de Dieu si on ne met pas les choses de Dieu en pratique dans notre vie. On n'éprouvera pas, entre autres, la paix dans nos vies si on se remet pas en prière. Tu sais, dans Philippiens 4, justement, si on a des soucis, bien de les amener en prière, les remettre à Dieu, puis lui, il va nous donner sa paix. Si on le fait pas, bien, on n'aura pas cette paix. Donc voilà, on comprend immédiatement la relation entre ce que nous faisons et puis jouir de ces bénédictions que nous avons dans le Seigneur Jésus. La paix dans des temps troubles dans lesquels nous vivons, de savoir que Christ vient bientôt, elle est pour ceux qui connaissent cette vérité et qui la reçoivent en simplicité par la foi. Sinon, on est toujours dans la crainte du lendemain. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, quelle chose terrible peut nous tomber dessus. Alors que la parole de Dieu nous enseigne et nous affirme que nous n'attendrons pas la colère, mais le salut. Ouais. Puis ce salut, c'est l'avenue du Seigneur Jésus. Il faut étudier le contexte d'1 Thessaloniciens 4 et 1 Thessaloniciens 5. C'est exactement ça que ça nous dit. Donc voilà, il faut étudier la parole pour la connaître. Il faut ensuite la mettre en pratique. Puis c'est là qu'il y a la bénédiction dans nos vies. je trouve qu'on s'est étendu un petit peu beaucoup sur ces premiers versets. On va regarder maintenant ensemble les versets 4 à 6.
Écoute, Israël. L'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur.
Ce sont de magnifiques versets et j'ai pas la prétention de les épuiser. Encore une fois, ces présentations ne sont que des réflexions pratiques rapides et non pas un exposé en profondeur. Mais ces passages, ces deux versets entre autres, les versets 4 et 5 que nous venons de lire, ils sont perçus et vus comme étant très importants dans l'Ancien Testament, spécialement pour le peuple d'Israël. Ces deux passages portent le nom de schéma. Je ne sais pas si on le dit comme ça, j'ai vu ça dans un commentaire, j'ai trouvé ça intéressant. Et ce mot « schéma » vient du mot « écoute » justement, « écoute Israël ». Si je ne me trompe pas, ça doit être « schéma Israël », quelque chose comme ça dans l'original. Donc ce passage, il est largement regardé comme le cœur de la foi et de la confession juive du judaïsme. Donc, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. Hein? Il est unique et il y a un seul vrai Dieu vivant. D'ailleurs, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 9, « Vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. » Voilà cet Éternel qui était déjà annoncé, présenté dans l'Ancien Testament, que nous connaissons pleinement maintenant en Christ par la grâce de Dieu. Alors voilà, ce Dieu véritable et vrai s'est manifesté comme Père, Fils et Saint-Esprit. Je ne désire pas non plus entrer dans le sujet de la question de la Trinité, mais c'est quelque chose que je reçois, non pas le mot en tant que tel, mais ce que les Écritures nous disent sur la personne de Dieu. On lit cette expression dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19, qu'il faut baptiser ceux qui sont sauvés pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le nom singulier du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le nom définitif, complet de Dieu dans sa pleine révélation que nous connaissons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Donc, c'est tout un sujet, mais pris dans sa simplicité, c'est simple. Dieu nous dit qu'il est comme ça, Père, Fils et Saint-Esprit. Puis Dieu n'est pas un Dieu qui met des masques, je suis le Père, je suis le Fils, je suis le Saint-Esprit, puis qui nous fait un beau petit spectacle. Ça serait de la tromperie, c'est faux. Puis on trouve ces caractères de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, chacun est parfaitement Dieu et chacun a un rôle et une place différente. On comprend pas tout, je désire pas aborder ce sujet-là présentement, mais nous le recevons par la foi. Et si l'homme pouvait comprendre Dieu, ah oui, j'ai compris, il n'y a pas de problème, si Dieu est comme ça, ben Dieu serait plus Dieu. Il est vraiment au-dessus de qui on est, puis de ce qu'on est. Puis c'est par révélation que nous connaissons Dieu comme il est aujourd'hui. Mais une chose est certaine, il y a un seul Dieu. Les chrétiens ne croient pas en trois dieux qui font comme quelque chose comme un. On ne croit pas en trois dieux, on croit en un seul Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il est Dieu. Voilà, on arrête là pour l'instant et on continue. Ce passage, il est très, très fort, très important. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul Éternel. Et ça faisait contraste avec aussi l'idolâtrie qui était partout dans l'Ancien Testament. C'est écrit ensuite que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Le mot « aimer » ici ne parle pas d'une émotion. On ne parle pas d'avoir des affections pour Dieu. Ce n'est pas cela que Dieu demande. Le sens du mot « aimer », c'est vraiment dans un sens d'engagement. Aimer Dieu, c'est lui être absolument loyal et lui rendre obéissance en toute chose. Et c'est ce que Moïse présentait devant le peuple ici. Tu vas être totalement loyal et obéissant à Dieu. Tu vas aimer l'Éternel, ton Dieu. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus a dit dans Jean 14, 15, entre autres, et verset 21, verset 23, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Voilà, c'est ce même style, ce même genre de message qui nous est communiqué. Est-ce qu'on aime Jésus? Est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce qu'on apprécie notre salut? Gardons sa parole! Soyons, excusez-moi l'expression, ça pourrait être mal compris peut-être, mais soyons dévots, hein, dévoués à notre Dieu. Servons-le, lui seul. On reviendra peut-être un peu à cette pensée tantôt concernant le fait de d'utiliser le nom de Dieu pour jurer. Pas jurer en parlant mal, mais jurer, promettre quelque chose à quelqu'un. On reviendra à ça dans quelques instants. Donc voilà ici cet engagement du cœur qui était demandé. De tout ton cœur. Aussi dans l'Ancien Testament, le cœur est souvent vu comme le siège de l'intelligence ou de l'esprit, de sorte que quelqu'un pense avec son cœur. C'est pas quelque chose avec lequel on est habitué, parce que nous, aujourd'hui, quand on parle du cœur, on pense beaucoup plus aux affections et aux émotions. Dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, entre autres, on le remarque, à plusieurs reprises, le cœur, il est intelligent. Le cœur n'est pas émotionnel, il est intelligent. Entre autres, on lit dans Proverbes 2, verset 2. Il y a plusieurs proverbes. Vous pouvez faire la recherche pour vous. C'est fort intéressant de voir ces nuances. C'est écrit dans Proverbes 2, 2, de rendre notre oreille attentive à la sagesse. Si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Alors, je pose une question. Est-ce que mes émotions ont besoin d'être inclinées à l'intelligence?
Ben,
on pourrait faire un argument philosophique en quatre points et puis dire, ben oui, bien sûr, hein, on peut tout retwister les choses. Mais si on prend juste très simplement la chose, intelligence, mon cœur, mon esprit, mes pensées inclinées à l'intelligence. Et c'est vraiment ça le sens ici de ce que nous avons. Lorsque ça dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, c'est pas tant l'aspect affectif. Bien sûr, celui qui connaît le Seigneur Jésus aujourd'hui, on parle d'Israël dans le temps, là, on va aimer le Seigneur. Mais premièrement, notre intelligence. Et ça connecte avec Romains chapitre 12, versets 1 et 2, d'être renouvelé dans notre entendement. Et le travail que l'Esprit-Saint a fait justement pour nous renouveler de ce que nous lisons dans Tite au chapitre 3. Donc, c'est ce qu'il convenait au peuple ici, de servir avec intelligence, de toute leur intelligence, de tout leur cœur, hein? Ensuite de toute leur âme. En hébreu, le mot âme représente pas seulement l'âme comme nous le comprenons aujourd'hui, qui est plus la vue helléniste, c'est-à-dire corps, âme, esprit. On dit souvent cela. Dans l'Ancien Testament, on trouve pas corps, âme, esprit. On voit que souvent l'âme et l'esprit sont interchangeables à quelque part. Et l'âme peut englober tout l'être dans les faits, de tout ton être, on pourrait dire. Donc, de toute ton intelligence, de tout ton être, de toute ta force, c'est comme cela que le peuple devait servir l'Éternel. Et puis, si on saisit ça ici, on se rend compte un peu que ce qui est dit ici, pour le paraphraser avec le Nouveau Testament, eh bien, c'est que Dieu a demandé à son peuple de l'aimer de tout son esprit, de toute son âme et de tout son corps, hein? Corps, esprit, âme et corps, pour reprendre l'ordre qui nous est présenté dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Et ça nous aide de saisir que c'est vraiment la personne entière, avec toutes les énergies que cette personne avait, qui devait être au service de l'Éternel. Alors maintenant, je pose la question à nous aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se compare avec l'Israélite de l'époque? Mieux? Pareil? Moins? On pourrait dire pareil, hein? Le cœur de l'homme est le même depuis toujours. L'homme n'a pas changé. On fait dur. Est-ce qu'on sert vraiment l'Éternel de tout notre intellect et de tout notre être entier, avec toute la force qu'on a? On doit avouer, hein, que beaucoup de notre force va dans nos activités, dans le travail, dans toutes sortes de trucs, puis on est souvent fatigué, même les week-ends, pour aller se réunir pour louer Dieu. On reviendra sur cet aspect-là tantôt, mais est-ce qu'on garde nos forces et nos énergies, notre intelligence, hein, un petit peu? On arrive des fois, on dit « Oh, je lis le soir, mais le soir, je suis tellement fatigué. » Justement, tu es fatigué après une journée de travail. Est-ce qu'on réserve un peu de bon temps, de notre intellect, le matin? Je dis le matin parce que la plupart de nous, c'est le jour qu'on travaille, mais on comprend l'idée, hein, au début de nos journées, pour ainsi dire. C'est une question, une réflexion pratique encore qu'on peut avoir ici. Ce verset, le Seigneur Jésus l'a cité dans le Nouveau Testament lorsqu'on lui a posé la question « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 22, versets 36 à 38 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le grand et premier commandement. Tout à fait. Si on servait nous tous Dieu comme ça, on accomplit tout le reste de la loi. On n'a plus besoin de rien se faire dire. On va aimer Dieu, on va le servir avec intelligence, on va donner toute notre énergie dans ce service. Hey, la vie est belle. Mais le Seigneur, peut-être qu'il se doutait qu'il avait raison, qu'on comprendrait pas trop la réponse qu'il vient de donner ici. Alors, c'est pour ça qu'il donne un exemple qui exprime très bien ce qu'il venait de dire avec le second commandement qui était tout aussi grand et tout aussi important, qui vient de Lévitique dans les faits. Dans Matthieu 22, au verset 39 à 40, il dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent la loi tout entière et les prophètes. » Autrement dit, aimer son prochain comme soi-même, c'est comme aussi aimer l'Éternel de tout son cœur, de son âme et de toute sa pensée. Si j'aime vraiment Dieu, je vais aussi faire ce qui est tout à fait bien avec mon prochain. Toute la loi va être accomplie. Donc, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-ci, le Seigneur Jésus nous dit. Et puis, ce deuxième verset explique au bout du compte le premier dans les faits. Il en est une genre d'illustration pour nous faire comprendre d'un point de vue pratique qu'est-ce que c'est. Bon, bien sûr, aimer Dieu, c'est pas aimer notre prochain, mais on comprend que c'est la conclusion, c'est le résultat naturel qui va venir de cela. Donc, Paul fera un résumé tout à fait similaire dans Romains chapitre 13 au verset 9 et suivant, lorsqu'il dit « Tu ne commettras point adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point » et tout autre commandement qu'il puisse y avoir est résumé dans cette parole-ci « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Voilà. En lien avec le passage, on voit que le service commence avec ce que nous lisons aussi au verset 6, lorsqu'on a lu « Et ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. » Ces paroles que je te commande aujourd'hui seront sur ton cœur. Tout ce qui suit dans la suite du chapitre, je trouve que ce verset-là, c'est un point qui est de pivot important face à ce que nous venons de voir et ce qui suit par la suite. Il faut que, premièrement, la parole de Dieu soit sur mon cœur. Chaque Israélite devait avoir le commandement de l'Éternel sur son cœur. Nous, est-ce que la parole du Christ habite richement en nous? Colossiens 3:16, est-ce que la parole du Christ habite en vous richement? En toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Eh bien, voilà. Elle doit être sur nos cœurs aussi. Autrement dit, dans notre intelligence. Le cœur, c'est l'intelligence. Étant bien occupé et rempli de celle-ci. Si bien occupé que l'apôtre Paul, il dira à Timothée, un peu dans un contexte différent, mais c'est la même idée, dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 15, « Occupe-toi de ces choses et sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. » Alors, est-ce qu'on montre dans nos vies que nous croyons véritablement Dieu et que nous croyons en Dieu? En Dieu, mais croire Dieu. Est-ce que tout ce que nous faisons dans nos vies, pour citer Colossiens 3:17, en parole ou en œuvre, est-ce qu'on fait tout au nom du Seigneur? Est-ce qu'on rend grâce par lui à Dieu? Puis est-ce que les gens, lorsqu'ils nous regardent, ils peuvent voir en nous vraiment des personnes qui non seulement disent qu'ils sont des chrétiens, mais ça paraît dans leur vie? Est-ce que dans ma famille, on voit que je suis fidèle à ce que le Seigneur demande? Est-ce que je suis présent aux réunions? Est-ce que les réunions, c'est deuxième ou troisième priorité dans ma vie si j'ai le temps puis j'ai l'énergie pour y aller? Est-ce que j'étudie personnellement la parole de Dieu? Est-ce que je la lis? Est-ce que je prends du temps pour prier? Est-ce que je le fais avec ma famille aussi? Est-ce que je montre que chez moi, c'est Dieu que je sers? Puis que ce que je dis là, c'est pas juste des belles pensées philosophiques, c'est je le crois vraiment, je le vis. Est-ce que je le vis en simplicité autour des autres croyants qui sont autour de moi? Est-ce que ça paraît? Est-ce que je prends du temps en famille? Est-ce que je prends du temps avec mes frères et sœurs? Est-ce qu'on prie ensemble, en famille, en assemblée? Est-ce qu'on chante ensemble? Est-ce qu'on étudie la parole ensemble? Vous comprenez où est-ce que je m'en vais avec ça? Est-ce que dans ma vie, on voit cela? Est-ce qu'elle est dans mon cœur, cette parole, de sorte qu'elle me transforme et qu'elle a un impact pratique chez moi? Eh bien, on parle ici des choses qu'on voit extérieures. Quelqu'un pourrait dire, « Ah, mais Seigneur, il voit mon cœur. » Oui, le Seigneur, il voit ton cœur, hein, mais notre foi, elle est justifiée, puis elle est prouvée, puis elle est manifestée par ce qu'on fait, par nos œuvres. C'était un peu le point de Jacques ici. « Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Mais Paul, il dira très bien qu'on n'est pas justifié par nos œuvres. Ça, on comprend très bien. Mais ça paraît-tu que j'ai la foi dans ma vie? C'est ça le point ici, là. C'est ça qui est important de voir. Alors, on pourrait faire toutes sortes d'exemples, mais il y a un exemple qui m'est venu à l'esprit quand je préparais ces quelques notes pour cette présentation. C'est, admettons que je prends des vacances, entre autres. Quand je prends des vacances, là, je le montre-tu dans ma vie aussi que c'est Christ que je sers? Ou est-ce que, encore une fois, c'est le dernier de mes soucis, je suis en vacances, that's it, puis je suis en vacances de chrétien aussi. On comprend l'idée? Bien sûr, on peut faire des vacances, puis dans certaines circonstances, ça peut être compliqué de se réunir avec d'autres croyants, mais est-ce que mon cœur est là? Ça va paraître. Je ne veux pas imposer quoi que ce soit sur la pensée ou la conscience de qui que ce soit. Je vais juste donner ici des exemples. Les vacances, le travail, le type de travail que je fais, les études que je fais, l'occupation de mon temps au quotidien, les activités familiales ou personnelles que j'ai pendant la semaine. Est-ce qu'on voit que la parole de Dieu est sur mon cœur? On va continuer maintenant. On va aller au verset 7 à 9 pour regarder à la suite de ce passage.
Tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, et quand tu marcheras par le chemin, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras, et tu les liras comme un signe sur ta main, et elles te seront pour frontaux entre les yeux, et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes.
On a des instructions qui sont très pratiques ici, qui sont données. Hein? Premièrement, on a vu, la parole doit être sur le cœur. Puis j'aimerais dire que on n'est jamais capable d'expliquer quelque chose si, premièrement, on ne l'a pas saisi pour soi-même, si on ne l'a pas maîtrisé nous-mêmes. Alors, comment est-ce que je peux encourager d'autres, entre autres ici dans le contexte, mes enfants, des enfants, à être enseignés dans ces choses, comprendre ces choses, si pour moi-même, ils ne sont pas sur mon cœur, puis je ne les ai pas saisis. C'est impossible. Vraiment, avoir la parole de Dieu sur le cœur, notre cœur, la comprendre, la garder personnellement, c'est le point de départ. Et bien, le Seigneur n'est pas seulement intéressé à ce que nous le craignons, comme on a vu dans le verset 2, mais aussi à ce que sa parole occupe si entièrement nos cœurs qu'elle soit aussi toujours sur nos lèvres pour en parler à nos enfants et petits-enfants. Toute occasion doit être saisie et tout événement, grand ou petit, doit être une occasion de pratique et de partage de cette parole. Tu en parleras quand tu seras assis dans ta maison, un repas, des occasions qui sont données, quand tu te lèveras, quand tu les liras comme un signe sur ta main, comme un fronteau entre tes yeux, etc. Le mot « inculquer » qui est dans le texte qu'on a lu, « tu les inculqueras à tes fils » représente très bien la force du mot original qui est dans le texte hébreu ici. La définition du mot inculqué en français, parce que je suis pas un dictionnaire sur roulette, j'ai été obligé de regarder la définition, parce que des fois on lit des mots, on comprend le sens général du mot, hein, d'enseigner, on comprend ça. Mais les mots, des fois, ils ont vraiment une force, puis je me suis rendu compte que le mot, il avait une force. Le mot inculqué veut dire faire entrer des connaissances dans l'esprit de façon permanente. Faire entrer des connaissances de façon permanente dans l'esprit de quelqu'un. C'est ça qu'il dit ici, tu l'inculqueras à tes fils. Tu vas le dire à tes fils de sorte qu'ils vont s'en souvenir toujours. Un dictionnaire hébreu donnait le sens aussi du mot original comme étant, dans différents contextes, en rendre tranchant, être aigu, inculquer, enseigner avec précision. On voit que c'est avec intention qu'il y a un enseignement. Donc, c'est vraiment comme aiguiser, graver, enseigner d'une façon pénétrante, par la répétition, s'il le faut aussi, c'est un autre sens qui peut être donné un mot aussi, sens de répéter, eh bien, de sorte que ça l'entre dans la tête de façon permanente. Nous, on a besoin de comprendre la parole comme ça. Souvent, on oublie, parce qu'on ne donne pas du cœur à ce que nous entendons. Et puis, lorsqu'on enseigne, entre autres, à nos enfants, à notre génération, aux petits-enfants, peu importe, il faut aussi donner cette parole, l'enseigner avec intention, de façon pénétrante, pour que ça touche le cœur, que ça marque l'esprit, pour qu'elle demeure. Voilà, c'était comme ça qu'Israël devait faire. Est-ce qu'on devrait faire moins que ça? On ne devrait pas faire moins que ça. Deux expressions très rapides ici. Hein? Tu les liras comme un signe sur ta main. Ils te seront pour un frontaux entre tes yeux. Eh bien, c'était au sens figuratif ici, hein, c'est au même sens figuratif que comme l'expression « sur ton cœur » au verset 6. Mais le judaïsme rabbinique, malheureusement, en a fait un commandement à être pris à la lettre beaucoup plus tard dans le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir, entre autres, des personnes qui ont littéralement, attachent des passages de la loi sur leur bras ou le mettent sur leur front. Ils en ont fait quelque chose de littéral. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, au verset 9. C'était aussi au sens figuratif, mais encore une fois, la tradition du judaïsme rabbinique en a fait un commandement à être pris à la lettre. Mais l'idée est là, c'est que tout ce que tu fais, hein, le bras, ta main, tout ce que tu fais, partout où tu regardes, hein, ton front, ta tête, tout ça, tu dois toujours te souvenir de la parole. Il doit être sur ton cœur, c'est ça l'idée, sur ton cœur. Tu dois toujours l'avoir sous les yeux, pour ainsi dire. Et puis, dans ta maison, c'est pareil. Quand tu es chez toi, c'est pas différent que quand tu es dehors. La vie publique, la vie privée, on pourrait dire, même chose. C'est la parole de l'Éternel qui doit être là tout le temps. Donc, ces deux expressions montrent à quel point cette parole ne doit pas être intellectuelle seulement, mais bien pratique. Et puis, les enfants apprennent très naturellement et rapidement des gestes que nous posons ou ne faisons pas, hein, l'absence de mettre en pratique. Communique un message aussi. Et puis, de ce que nous occupons nos yeux et nos pensées avec pendant la semaine, de sorte que nous faisons à la maison comme à l'extérieur. Les enfants voient très, très bien. Ils nous voient agir à la maison, ils nous voient agir dehors, ils voient ce que nous faisons et ne faisons pas. Ils apprennent de cela tout naturellement. On n'a pas besoin de beaucoup de paroles parfois. Et c'est pour cela qu'il faut qu'elles soient sur notre cœur en premier, pour que notre vie soit transformée et que notre marche soit un exemple à tous égards. Si nos paroles ne sont pas comme nos actes, eh bien, je communique un très mauvais message. Donc, les Israélites devaient être continuellement entourés de cette parole, vivre dans l'atmosphère de cette parole. Et pourquoi? Parce que on oublie très rapidement. Puis nous aussi, on oublie très rapidement. Donc, c'était la même chose pour eux, même chose pour nous aujourd'hui. C'est pour ça que deux fois dans le Nouveau Testament, on lit, entre autres, dans Philippiens 3, verset 1, l'apôtre Paul qui dira « Vous écrire les mêmes choses n'est pas pénible pour moi, c'est votre sûreté. » Et puis Pierre, 2 Pierre, chapitre 3, verset 1, il dit « Je vous ai déjà écrit, bien-aimé, cette seconde lettre, et dans l'une et dans l'autre, je réveille votre pure intelligence en rappelant ces choses à votre mémoire. » Oui, rappeler, répéter, c'est cela qu'il nous faut. Et c'est pour ça que c'est bien de nous entourer chaque jour, continuellement, de la parole et de cette atmosphère de la présence de Dieu. Dans la communion du Seigneur, c'est encore meilleur. Toujours. Hein? Parce que sinon, ça devient juste une lettre. Ça devient rituel, puis le ritualisme, puis la religion. Pas ça que le Seigneur veut. Il veut une réalité dans notre cœur. Il veut qu'on ait communion avec lui continuellement, jour après jour. Lisons les versets 10 à 12 maintenant.
« Et il arrivera, quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura introduit dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, et des maisons pleines de tout bien que tu n'as pas remplies, et des puits creusés que tu n'as pas creusés, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés, et que tu mangeras, et que tu seras rassasié. Alors prends garde à toi, de peur que tu n'oublies l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. »
Prendre garde à oublier l'Éternel lorsqu'ils allaient entrer dans le pays. Et dans ces versets, on a une belle description du pays. Donc, c'est un rappel continuel dans le Deutéronome et aussi pour nous de prendre garde. Quand vient l'aise, quand vient le confort, la facilité, le repos, alors la négligence et l'oubli que tout vient de Dieu, eh bien, nous guette, nous aussi. Hein? Le manque de reconnaissance, le manque de dépendance dans ses soins, de croire qu'on est quelque chose et puis que toutes ces choses-là arrivent parce que on le mérite, hein? Puis qu'on est peut-être meilleur que les autres. Autrement dit, tout ce que Dieu nous a donné aussi, tout ce qui est notre, on finit par l'oublier puis on le prend comme si c'était ordinaire. C'est très mauvais pour nous. Faut toujours réaliser le précieux de ce qui nous a été donné par l'œuvre accomplie du Seigneur Jésus-Christ, toutes les richesses spirituelles que nous avons en lui aussi. Il faut faire attention. Surtout nous, dans nos pays, on est très, très impactés par cet aspect des choses où le confort, justement, va nous éloigner d'une dépendance véritable du Seigneur. On oublie sa grâce, on oublie son amour, on oublie ses soins, sa miséricorde, on oublie sa providence même qui doit être reconnue, hein, en toute chose. Tout cela, ça nous guette, nous aussi, tout comme les Israélites à l'époque lorsqu'ils allaient entrer dans la terre promise. Si on prend pas garde, eh bien, on sait ce qui arrive. Alors, les soins paternels de Dieu envers nous, ils vont se faire sentir. Pas parce qu'il veut nous châtier ou nous punir, mais parce qu'il veut nous ramener près de lui dans une place de communion et de dépendance avec lui. Il veut toujours nous avoir près de lui. Alors voilà, par cette énumération des choses aussi qu'on trouve ici, des villes qui n'ont pas bâti, des maisons pleines de toutes sortes de biens, des puits qui n'ont pas creusé, des oliviers, c'est magnifique. On peut avoir une autre petite réflexion pratique en ce qui nous concerne. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que nous avons aujourd'hui comme enfants de Dieu, de toutes les bénédictions de Dieu en Christ, qui nous est dû? Puis est-ce que c'est dû à notre travail et à nos propres efforts? La réponse, c'est non. Tout nous est donné gratuitement, richement, par Dieu, par l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Comment on peut être reconnaissant? Nous, on est entrés aussi dans un pays, pour ainsi dire, spirituellement, rempli de richesses, de choses délicieuses et excellentes. Mais c'est à nous, et ça c'est plus le livre de Josué, c'est à nous de marcher pour prendre possession de ces richesses que nous avons acquises. Elles sont toutes acquises, elles sont toutes à nous, mais Satan, le monde et la chair qui est en nous s'y opposent à ce que nous prenons le bien, la possession de ces choses que nous avons en Christ, s'y opposent. Et c'est pour cela que nous devons faire bataille aussi. Ça, c'est les vrais combats, entre autres, spirituels, qui nous sont décrits dans Éphésiens, au chapitre 6. Alors voilà, nous qui avons richement reçu des dons qui nous ont été libéralement donnés de la part de Dieu, toute chose bonne, que nos bouches soient toujours remplies de reconnaissance et d'action de grâce envers Dieu. Positivement, c'est ne pas oublier. Que le Seigneur nous donne justement d'avoir des cœurs vraiment reconnaissants chaque jour pour toutes ses bontés. On va lire maintenant le verset 13 ensemble pour la suite de notre étude.
Tu craindras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras et tu jureras par son nom.
Craindre l'Éternel, jurer par son nom. Eh bien, on a parlé justement de la crainte dans le chapitre 5. Eh bien, est-ce que Dieu n'est pas digne aussi de cette crainte et de notre service, de tout notre cœur, à cause de tout ce qu'il a fait pour nous? Mais on manque souvent de penser à cela. C'est tout un sujet à développer, ce service qu'on peut rendre à Dieu de nos vies, par l'Esprit de Dieu qui est en nous, par les dons qui sont donnés, les œuvres qui ont été préparées à l'avance pour que nous marchions dans celles-ci. Tout cela, c'est tout un sujet qui est propre à développer. Mais ici, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras. Oui, il en est digne, notre Seigneur Jésus, du service de nos cœurs, d'un service volontaire à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. Et tu jureras par son nom. Cette expression de jurer ici, elle est intéressante. Ça démontrait le Dieu qu'une personne servait. Donc, les idolâtres, ils juraient par leur Dieu idolâtre. Je voudrais prendre l'exemple, s'il y a certains qui ont déjà vu les bandes dessinées d'Astérix et Obélix, on voit que les Gaulois, hein, ils juraient par Toutatis, par Belenos, par Bellissama, puis par Hazard aussi, c'était un bon gag. Eh bien, ces expressions de jurer par ces dieux, ça démontrait leur dévotion à ces dieux-là, puis quel dieu ils servaient. Dieu disait à son peuple maintenant, vous allez entrer dans des terres là où ils jurent par toutes leurs idoles, vous, mon peuple, vous allez jurer par mon nom. C'est mon nom qui va être sur vos lèvres tout le temps. C'est moi que vous allez servir, c'est moi que vous allez craindre. C'est exactement ça le sens ici de ce qui nous est présenté dans ce passage. Et remarquons encore une fois, j'ai parlé de ce service volontaire, hein. Dieu ne nous oblige à rien. C'est notre cœur qui devrait répondre à ce désir aussi du Seigneur de le suivre dans le chemin. Alors, jurer par son nom, nous, on sait dans le Nouveau Testament qu'on quelque chose de mieux nous est présenté. On apprend dans la parole, Jacques nous dit qu'il ne faut pas jurer ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc, ce n'est plus une question de jurer, mais le nom de Jésus doit être sur nos lèvres. Hein? C'est lui qu'on aime, c'est lui qu'on sert, c'est lui qui remplit notre cœur. Si sa parole est sur nos cœurs, c'est ce qui va arriver naturellement. Mais pour ce qui est de jurer, que votre oui soit oui et votre non, non. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous demande. Regardons maintenant au verset 14 et au verset 15.
Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui seront autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, qui est au milieu de toi, est un Dieu jaloux. De peur que la colère de l'Éternel, ton Dieu, ne s'embrase contre toi et qu'il ne te détruise de dessus la face de la terre.
Alors voilà ici, Dieu Un Dieu jaloux. C'est intéressant, on trouve cette expression 7 fois dans la parole. Et puis ici, c'est la troisième fois, la quatrième fois que nous avons cette mention. On a vu une troisième dans le chapitre 4 déjà. Et puis cette jalousie nous parle de plusieurs choses. On a déjà fait une courte méditation là-dessus, mais ça nous montre entre autres aussi son amour sans partage pour son peuple. Et Dieu peut pas... Lui qui a tout fait pour son peuple, qui aime son peuple irait vers l'idolâtrie. On comprend-tu ici là la jalousie que Dieu a? C'est une sainte jalousie. C'est une jalousie qui est due à son amour pour les siens. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Même dans le Nouveau Testament, on a une expression similaire qui nous est donnée par l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 10. Provoquons-nous le Seigneur à la jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Hein? Puis c'était justement en lien avec les tables idolâtres. Le croyant, il devait pas aller au temple d'idoles puis manger aux tables des temples d'idoles. C'était la même idée qui était donnée ici. Alors, est-ce qu'on pourrait aller vers un autre sans provoquer la jalousie du Seigneur? Eh bien, voilà. Dans le Deutéronome, on le verra beaucoup plus tard, au chapitre 32, verset 16, il y a cette expression qui on voit que c'est un cri du cœur que Dieu dit. « Ils l'ont ému à jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont provoqué à colère par des abominations. » Ben voilà. « Ils m'ont ému à jalousie parce qu'il n'est point Dieu, nous lisons dans le verset 21 du chapitre 32 toujours. Ils m'ont provoqué à colère par leur vanité. » Voilà, c'est exactement ça, cet aspect de cette jalousie. Dieu aime son peuple, il veut que son peuple soit entièrement pour lui seul aussi. Et encore une fois, aujourd'hui pour nous, le Seigneur, il veut tout notre cœur pour lui. Il veut qu'on soit entièrement à lui, âme, esprit, âme et corps, parce qu'il nous a rachetés à un très grand prix. Puis l'apôtre Jean, il dira, à la fin de sa première épître, « Enfin, gardez-vous des idoles. » Même chose, même principe qui nous est donné. Alors voilà, que le Seigneur nous donne de réaliser son très grand amour pour nous, puis aussi l'honneur, la gloire qui lui sont dus. Passons au verset 16.
« Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. »
Jésus a citer ce passage dans le Nouveau Testament, lorsque Satan le tentait, dans Matthieu chapitre 4 au verset 7, il a dit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Et on n'ira pas voir le contexte de Matthieu, je le laisse à votre lecture personnelle, mais c'est le même genre de tentation qui est donné ici. Hein? On tente Dieu. Le peuple, on lit dans Exode chapitre 17 au verset 7. On lit ce verset, ça dit « Et il appela le nom du lieu Massa et Meriba à cause de la contestation des fils d'Israël et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Détail que nous n'avons pas ici dans le Deutéronome, mais elle est là la tentation. « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» Puis à Jésus, le diable avait dit, « Jette-toi en bas, c'est écrit qu'il va envoyer des anges pour pas que de toute façon... » Le Seigneur a dit, « Tu tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. » C'est un peu dire, « L'Éternel, es-tu avec toi ou n'est-il pas avec toi? » Hein? C'est exactement le même genre de tentation ici qui était fait. Le mot « massa » dérive d'un mot justement qui veut dire « tester, tenter ». Tester Dieu. Eh bien, le croyant ne doit pas faire cela, tenter Dieu par ce genre de choses-là. On marche par la foi en faisant confiance à Dieu. Et puis... il faut pas non plus provoquer le Seigneur à faire des choses par force, hein, comme en se mettant dans des situations épouvantables pour forcer sa main, pour agir, pour faire quelque chose. On va avoir des mauvaises surprises parce que c'est pas quelque chose que le Seigneur est agréable devant lui. C'est marcher par la foi, dépendre de lui, croire en lui. Il faut pas dire « Dieu est-il au milieu de nous » en voulant une preuve quelconque. C'est encore forcer la main de Dieu. « Ah, Seigneur, si, puis si ça, fais ceci ou fais cela. » Exactement le genre de choses qu'il faut éviter de faire aussi. C'est pas convenable. Parce que ce qui plaît à Dieu, on lit dans Hébreux 11, verset 6, eh bien, c'est notre foi. C'est s'approcher de lui en croyant. Ça, c'est ce qui lui plaît. Puis voilà. Jésus a dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » Voilà, on est bienheureux. Des fois, on aimerait savoir des choses tangibles. Mais n'oublions pas cela. On tente pas le Seigneur. On se met pas dans des situations pour tenter le Seigneur. Viens me délivrer maintenant que je suis dans cette situation-là. Et puis, on provoque pas le Seigneur. Seigneur, t'es-tu vraiment au milieu de nous? T'es-tu vraiment avec moi? Fais ceci, fais cela. Alors, on fait pas ça. Bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Le verset 17.
Vous garderez soigneusement les commandements de l'Éternel, votre Dieu, et ses témoignages, et ses statuts qu'il t'a commandés.
Remarquons l'utilisation du mot « soigneusement ». On voit l'insistance sur la manière dont il devait garder les commandements de l'Éternel. Eh bien, on doit nous aussi garder la parole soigneusement, dans sa pureté. Pas l'utiliser pour satisfaire nos pensées, ce qu'on veut bien entendre, comme on a dit au début de cette présentation, mais vraiment faire ce qui est agréable au Seigneur. Soigneusement, la garder telle que nous l'avons reçue. Pas la tordre pour arriver à nos fins. On la laisse nous enseigner, on y obéit avec simplicité. Regardons maintenant les versets 18 et 19.
Et tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de l'Éternel, afin que tu prospères et que tu entres dans le bon pays que l'Éternel a promis par serment à tes pères, et que tu le possèdes en chassant tous tes ennemis de devant toi, comme l'Éternel l'a dit.
Faire ce qui est droit, c'est faire ce qui leur a été commandé. C'est ça qui est bon. Tu feras ce qui est droit et bon aux yeux de l'Éternel. Fais ce qui t'a été dit, ça va être exact, c'est ça qu'on te demande. Pour nous, c'est une obéissance tout aussi simple aussi qui est devant nous. Si on se pose la question face à des choix, est-ce qu'on peut examiner ces choix à la lumière des enseignements de la parole de Dieu et puis prendre une bonne décision? En général, plusieurs questions sont rapidement répondues sous la lumière de la parole de Dieu et dans la présence de Dieu. Est-ce que je devrais faire ceci? Est-ce que je devrais aller là? Est-ce que si? Est-ce que ça? La parole nous donne plein de principes généraux. Puis, on devrait être capable de trouver notre chemin dans 95 % des cas. Oui, il y a des petites questions un petit peu plus particulières, qu'il n'y a pas une réponse claire des Écritures, mais il y a souvent beaucoup de principes qui nous donnent déjà beaucoup de lumière. Et puis, quand on se tient dans la présence de Dieu, il montre ce qu'il y a dans nos cœurs des fois. Ça nous humilie, mais ça nous fait désirer nous attacher à lui, lui faire confiance toujours plus. Alors, marchons dans la lumière, marchons d'une manière digne de l'appel dont nous avons été appelés, Éphésiens 4.1, marchons d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards, Colossiens chapitre 1, verset 10, marchons d'une manière digne de Dieu qui nous a appelés à son propre royaume et à sa propre gloire, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12. Marcher en faisant ce qui est droit, c'était bon, puis c'était la garantie de la bénédiction du peuple, dans le bon pays que l'Éternel leur a donné, selon sa promesse. Et puis ce sera aussi pour notre joie et pour notre bénédiction dans nos âmes, parce que nous allons jouir de ces richesses spirituelles que nous avons en Christ, dans une bonne communion avec le Seigneur et dans la liberté que l'Esprit aura de nous la communiquer dans nos vies. Si je vis à ma manière, si je vis dans le péché, s'il y a des choses qui ne sont pas droites devant Dieu, comment est-ce que l'Esprit peut me communiquer ces choses délicieuses et merveilleuses de Christ et de Dieu et qui nous attendent, alors que je suis... Je me mets dans le trouble, puis ça arrivera pas. Ben voilà. Évidemment, si on marche par l'esprit, on va inévitablement marcher en faisant ce qui est droit et bon devant Dieu et aussi devant les hommes. Quoique, de nos jours, peut-être que les gens nous voient faire ce qui est juste devant Dieu, mais pour eux, c'est pas très juste de faire. Ça, c'est une autre question. On n'embarquera pas ici. Mais nous, on va faire ce qui est juste et bon aux yeux de Dieu. On va terminer en lisant maintenant les versets 20 à 25.
Quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant « Que sont les témoignages et les statuts et les ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a commandés ?» Alors tu diras à ton fils « Nous étions serviteurs du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte à main forte. Et l'Éternel a opéré devant nos yeux des signes et des prodiges grands et accablants sur l'Égypte, sur le Pharaon, et sur toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là, pour nous faire entrer dans le pays qu'il avait promis par serment à nos pères, pour nous le donner. Et l'Éternel nous a commandé de pratiquer tous ses statuts, de craindre l'Éternel notre Dieu, pour notre bien, toujours, pour nous conserver en vie, comme il paraît aujourd'hui. Et ce sera notre justice que nous prenions garde à pratiquer tous ses commandements devant l'Éternel, notre Dieu, comme il nous l'a commandé.
Il y a beaucoup à partager sur ces quelques versets aussi, mais on ne veut plus étirer maintenant, on a pas mal fait notre temps. Une heure de présentation, c'est C'est court, mais si l'objectif, c'est suffisant pour ce chapitre 6. Remarquons bien, un petit détail intéressant, les signes grands et accablants, hein, dans le verset 22 qu'on a lu, le mot hébreu qui est utilisé ici, j'ai appris qu'il se prononçait « Ra ». Et puis, ça ressemble à un jeu de mots possible avec le dieu des Égyptiens, hein, accablant, Ra. C'est intéressant. C'est un petit clin d'œil que je fais ici. C'est pas super important, mais c'est intéressant. Je trouve ça intéressant. Je le partage. Les enfants posent des questions lorsqu'ils grandissent. La réponse de notre bouche doit provenir de la parole de Dieu toujours, parce que c'est basé et fondé sur la parole de Dieu que nous grandissons, que la foi vient aussi. Et que ce soit en témoignage de ce que le Seigneur a fait ou une parole d'enseignement, tout doit être assis, basé, fondé sur la parole de Dieu. Remarquons ce qui est dit au fils ici. Moïse, il dit au peuple, quand tes fils, tes enfants vont te poser des questions, tu vas dire ceci. La première partie, eh bien, les parents rendent témoignage du salut de Dieu envers eux. C'est la première chose qu'ils disent. Ensuite, ils donnent des détails de ce que Dieu a accompli. Ils étaient esclaves, ils sont sortis d'Égypte, hein, ils ont été délivrés par des signes, des prodiges sur l'Égypte, le pharaon et sa maison, et ensuite ils sont entrés dans le pays promis. Ensuite, il leur a dit, quand vous aurez dit ça à vos fils, à vos enfants, vous leur aurez expliqué, eh bien, il leur dit, vous leur direz que maintenant, il nous a été commandé de pratiquer ces statuts, de craindre l'Éternel, et que ça allait être pour notre bien, pour notre bénédiction. Et puis, on va arriver sur quelques pensées pour les deux derniers versets qui sont très beaux. Eh bien, il y a quelque chose de très beau qu'on peut prendre pour nous aussi de façon très pratique. On doit nous aussi rendre le même témoignage à nos propres enfants aujourd'hui. Et puis ici, c'est pas nos enfants, ça peut être à d'autres enfants aussi. Pour passer cette foi d'une génération à l'autre, ça peut être à des jeunes croyants aussi. Mais c'est triste à dire d'un certain côté, mais on n'a pas ce réflexe. Comme parents, est-ce que nos enfants connaissent comment on a rencontré le Seigneur? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire personnelle? On peut, comme pour Israël ici, on peut leur conter des faits véritables de l'œuvre de la croix. Puis c'est un peu l'équivalent de ce qu'on trouve ici. Vous leur direz, vous étiez des esclaves, vous avez été délivrés, il y a eu des signes terribles, puis vous avez été amenés dans un pays de bénédiction. Nous, on peut prêcher l'Évangile, c'est l'œuvre de la croix. On était esclaves du péché, Christ est mort, il y a eu des jugements, des signes terribles, ressuscité le troisième jour, crois en lui, lavé de nos péchés, puis maintenant on est béni de toute bénédiction spirituelle en lui céleste en Christ. Amen, on dit en ça. Mais d'une façon plus pratique, est-ce que mes enfants, ils savent comment j'ai compris ces choses, puis comment j'ai grandi dans la foi? C'est intéressant. On retient les histoires. On peut partager cela. C'est une réflexion pratique que je fais ici. C'est tout simple, mais voilà, ça vaut la peine d'y réfléchir. L'histoire de notre salut, c'est une chose qui est bonne à communiquer. C'est bon pour les autres, parce que c'est pas tout le monde qui a une histoire de salut qui est fantastique, avec des choses, non, c'est très smooth, là, le salut qu'ils ont eu, mais c'est une histoire du salut, de la grâce de Dieu. Et ça, c'est beau et c'est précieux. Même si ça a été une ride smooth, pour prendre un bon mot français, une promenade tout à fait douce, comment on est venu au Seigneur. C'est l'histoire de comment t'as été sauvé, puis c'est beau ça, puis on devrait dire amen à ça. Autant que d'autres, ils ont tout vécu, on dirait 18 vies avant de rencontrer le Seigneur, puis finalement, ils ont été sauvés. On est impressionnés par ça. Mais c'est l'histoire du même sauveur qui a sauvé une âme encore une fois. Ça vaut la peine de le dire, toujours. Nos enfants devraient savoir, d'autres personnes devraient le savoir aussi. Eh bien, voilà, on peut s'encourager à faire cela. Pour l'enfant, hein, le premier pas, c'est de saisir pour lui-même ce salut, cette foi. Pour reprendre les termes de l'Ancien Testament, de saisir cette parole puis de marcher dans celle-ci. Eh bien, c'est là que ça commence pour eux, et puis c'est là aussi que ça doit se poursuivre, basé, assis sur ce que Dieu a fait, recevoir par la foi, grandir dans ces choses-là. Recevoir, saisir personnellement, le salut de Dieu qui est en Jésus-Christ. Les parents doivent élever leurs enfants comme de futurs citoyens des cieux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas de les élever en leur disant « T'es un pécheur, tu vas aller en enfer, faut que tu te prends. » C'est vrai, mais c'est pas de même que tu vas élever un enfant dans les choses de Dieu. C'est ton enfant. Élève-le dans la grâce de Dieu comme un futur citoyen des cieux. Enseigne-lui les choses du ciel déjà, même s'il n'est pas encore ça. Enseigne-lui ces choses. Remplis son cœur, comme on a vu tantôt, avec intention. Aiguise son esprit aux choses de Dieu. Parce que ça, c'est la parole qui peut l'amener à salut, comme Paul a dit au sujet de Timothée. Super important. On doit élever nos enfants comme de futurs citoyens des cieux. Ensuite, on a ces bénédictions. L'Éternel nous a commandé de pratiquer ses statuts, de craindre l'Éternel notre Dieu pour notre bien toujours, pour nous conserver la vie comme il paraît aujourd'hui. Ce sera notre justice que nous prenons garde à pratiquer tous ces commandements de l'Éternel notre Dieu comme il nous l'a commandé. Eh bien, nos bénédictions sont en Christ dans les lieux célestes. Et notre Père céleste désire que nous en soyons continuellement occupés et que nous y trouvions nos joies, nos espérances, nos délices, tout comme Israël dans la terre promise, il devait profiter de cette terre que Dieu lui donnait. Nous aussi, on doit maintenant être occupés de ces choses-là. Et pas nous seuls, mais toute notre famille aussi, très particulièrement les enfants aussi, doivent être amenés dans les richesses et les beautés de cette chose que nous avons dans le Seigneur Jésus seulement. C'est là que la bénédiction se trouve pour toute la famille. C'est là que cette parole véritable se réalise dans Actes 16, verset 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta maison. Et puis, je parle ici, j'ai fait des applications, des réflexions au niveau de la famille, mais c'est tout aussi vrai au niveau de nos assemblées, de nos rassemblements ensemble comme croyants. Être occupé des choses du ciel, du Seigneur Jésus d'une façon particulière. C'est ça qui remplit le cœur, qui donne de la joie, qui encourage, qui nous donne les forces pour aller de l'avant, puis rend un témoignage du Seigneur Jésus, même quand les choses sont difficiles autour de nous. C'est pas la doctrine, c'est pas des choses complexes, puis des formes, puis des trucs de même. Toute la parole est importante. Ne me méconnaissez pas. Toute la parole est importante. On doit marcher selon ce qu'elle nous enseigne. Mais nous occuper de Christ et des bénédictions qu'on a en lui, ça, c'est ce qui remplit le cœur, qui nous donne des forces, qui nous encourage à aller de l'avant. Alors, c'est bon pour nous aussi. On a cette expression, hein, ce sera notre justice que nous prenons garde à pratiquer toutes ces choses. Est-ce que ce ne sera pas aussi notre justice? Ce mot commandement qu'on trouve ici, c'est commandement devant l'Éternel, eh bien, il représente l'ensemble de tout ce que Dieu a donné à son peuple sous cette alliance de Sinaï. Eh bien, c'est en effet ce qu'il y avait de juste pour eux de faire, c'est de pratiquer ce que Dieu leur avait donné. Eh bien, nous aussi, Christ nous a acquis pour être un peuple acquis, zélé pour lui-même, pour marcher dans les bonnes œuvres, comme on lit dans Tite, chapitre 2, à la fin, je pense que c'est le verset 15. Ouais, ça doit être le verset 15. Eh bien, voilà, on réalise que c'est pas ça qui nous justifie devant Dieu. Pas du tout. C'est pas notre justice dans « c'est ça qui me justifie ». C'est pas l'idée ici que ça veut dire du tout. Notre justice, c'est Christ. C'est lui qui est mort à la croix pour nos péchés. On n'est pas justifié par nos œuvres, on n'est pas justifié par ces choses-là. Et c'est plutôt juste que nous fassions ces choses-là, vu ce que Christ a fait pour nous. Christ est notre seule justice devant Dieu et nos œuvres, elles, nous justifient devant les hommes. Voilà la différence qu'il faut faire. Mais voilà, c'est ce qui est droit et juste pour nous aussi de faire, de garder sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est la preuve de notre amour pour le Seigneur Jésus. Et puis, c'est aussi à quelque part manifesté que c'est Christ qui vit en moi. C'est pas juste un service des lèvres, c'est vraiment quelque chose que je fais, je le vis, parce que j'aime le Seigneur Jésus. Alors voilà, ça fait le tour rapide, comme d'habitude, mais j'espère que ce survol rapide amènera à vos cœurs une réflexion additionnelle sur ces choses, creuser quelques aspects, voir les richesses qu'il y a dans le livre du Deutéronome, il y a beaucoup de choses pratiques. Toujours faire la distinction entre ce qui est donné à Israël et ce que nous pouvons appliquer à nous spirituellement dans notre marche comme croyants. On n'est pas sous la loi, mais il y a beaucoup de choses à apprendre qui sont pratiques pour nous, ou qu'on peut tirer des parallèles qui sont dans le Nouveau Testament. On n'invente rien ici. Tout ce qu'on a vu, on l'a toujours pris à partir du Nouveau Testament. On prend le Nouveau Testament pour éclairer, sous la direction de l'Esprit de Dieu, ce qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament qui est bon pour nous. Alors, on doit se souvenir de la parole, marcher dans celle-ci, passer cette parole qu'on a apprise à une autre génération, se souvenir de tout ce que nous avons en Christ, marcher humblement avec Dieu, ça va être notre justice, devant les hommes du moins, et devant Dieu, c'est ce qui est juste que nous fassions. Eh bien, nous appartenons au Seigneur Jésus, non plus à nous-mêmes, mais à lui, pour le servir et vivre pour lui. Alors voilà pour ces quelques réflexions pratiques sur le chapitre 6 du Deutéronome. Et puis, c'est dans l'attente de la venue du Seigneur que je vous dis à bientôt.